C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Stendhal, 1783-1841. Écrivain, diplomate. Hétérosexuel, athée, politique, gauche. Œuvre Le Rouge et le Noir, chronique du 19e siècle, roman 1830. Personnage Julien Sorel. Adaptation, une comédie musicale, un opéra, plusieurs films. Le premier en Italie et en 1920, Il Rosso e il Nero, film muet de Mario Bonnard. Plusieurs films ou téléfilms français, un film soviétique de Sergueï Gerasimov en 1979, Le Rouge et le Noir, où l'acteur qui interprète Julien Sorel, Nikolaï Eremenko, est d'ailleurs celui qui ressemble le plus à la description qu'en fait Stendhal. C'est d'ailleurs lui que l'on verra en illustration de l'émission sur notre site internet. Ah, Julien Sorel, quelle merveille de personnage! Quelle moindre merveille de personne! Un personnage n'est pas réussi en fonction de sa vertu, au contraire des personnes. Vicieuse, une personne nous fatigue. Vertueux, un personnage nous ennuie. Il n'a que ses qualités à nous apprendre et nous, pourris d'imperfection que nous sommes, sommes d'abord agacés, puis indifférents à cet être qui finit par nous apparaître bien poseur. Vicieux, il nous ennuierait aussi, quoique peut-être un peu moins vite. Stendhal, en bon romancier, compose des personnages moirés, moirés comme la moire du tissu. Le plus moiré d'entre eux est sans doute Julien Sorel. Ceux qui lisent Le Rouge et le Noir comme un roman d'amour m'étonnent. L'amour n'est réellement éprouvé que par un des personnages, Madame de Rênal, mère des enfants, dont Julien Sorel est le précepteur. Mariée à un fat ennuyeux, elle est d'abord enivrée par l'audace de Julien Sorel qui a osé lui prendre la main, puis elle l'aime sincèrement et continuellement. La petite Mathilde de la Mole, dont Julien fait la connaissance à Paris où il a été embauché par son père, se prend d'un amour de tête pour lui, mélange d'insolence et de désir de singularité. On sent dans les pages à son sujet que Stendhal expérimente une des théories qu'il avait exposées dans De l'amour. Je ne dis pas que l'amour de Mathilde soit faux, je dis qu'il me semble guidé par une idée préconçue de l'auteur. Stendhal est l'écrivain que j'adore, le plus éloigné de Proust que j'adore, sauf dans ses pages du Rouge et le Noir, qui me rappellent les pages d'analyse d'Albertine disparue. Dans ces moments-là, l'analyse pousse l'imagination de sa réglette pour prendre sa place. Mais, comme Stendhal est Stendhal et Proust Proust, l'imagination rassemble bientôt sa traîne, lève le menton et reprend le pas sur cette institutrice. Mathilde devient folle d'amour pour Julien, folle vraiment, au point, à la fin, dans une scène à la Shakespeare, de faire un hôtel dans la prison de Julien, avec sa tête coupée qu'elle baise au front et qu'elle prend ensuite sur ses genoux dans la voiture qui la conduit à son enterrement. Roman d'amour, roman de haine. C'est un des mots les plus fréquents du livre. Haine, haine, haine. Haine de Julien envers les aristocrates. Haine des aristocrates réactionnaires envers les libéraux. Haine des jésuites envers les prêtres de province. Haine des apprentis prêtres contre Julien. Haine qui crée les à-coups de la vie dans ce livre. Dans ce personnage en personne, nous ne parlerons pas d'Antoine Berthet, exécuté à Grenoble en 1828, dont l'histoire a partiellement fourni à Stendhal le patron des aventures de Julien Sorel. Je pense que l'on induit les lecteurs en erreur sur ce qu'est l'imagination quand on laisse entendre qu'un romancier recopie. Qui est Julien Sorel? Pour en parler, je reçois Damien Aubel, journaliste au magazine culturel Transfuge. Son plus récent livre, Vénus s'en va, a été publié chez Inculte en 2019. Damien Aubel, à quoi ressemble ce Julien Sorel qui a 18 ans au début de l'histoire et 23 à la fin?
Alors, à quoi ressemble Julien Sorel? Eh bien, comme vous le soulignez très justement, c'est un personnage moiré et cette moire est une forme d'oscillation entre le masculin et le féminin. La première apparition de Julien Sorel, c'est un frêle jeune homme qui a des traits de fille, que Madame de Rênal, donc celle qui est mariée à l'ennuyeux maire de Verrières, va d'ailleurs prendre au début de façon très romanesque pour une jeune fille. Julien Sorel, c'est donc ça d'abord, la fragilité, la beauté, mais c'est aussi sous cette fragilité, cette beauté, un nez aquilin, comme l'aigle napoléonien peut-être. C'est aussi des cheveux châtain foncé, plantés très bas, qui peuvent lui donner un air méchant lorsqu'il est en colère. D'entrée de jeu, ce Julien Sorel, très étonnant, fait penser à une créature un petit peu androgyne, entre la violence et la douceur. Il est aussi quelque part entre la jeunesse et la maturité.
On pourrait penser que quand Stendhal confie le soin de dire au personnage féminin qu'il est beau, par exemple Mathilde, lui qui est réellement si beau, se dit enfin Mathilde, il peut sous-entendre que les femmes s'exaltent et que cette beauté n'est peut-être pas aussi marquante. Mais pourtant, c'est confirmé par le narrateur omniscient du livre, assez rarement mais une fois, où il est dit un fort joli garçon, très mince.
C'est exact. Alors la beauté de Julien, c'est une beauté qui est à la fois reflétée, réfractée par les yeux de tous, en tout cas de toutes, puisqu'il y a aussi Elisa, il y a Amandine aussi, qu'on trouvera à Besançon. C'est une beauté qui est aussi attestée par Stendhal lui-même, et semble-t-il, sans aucune ironie ou sans aucun petit clin d'œil de sa part.
Il y a une chose, c'est que Stendhal aimait les personnages principaux beaux. Fabrice est beau, Fabrice dans la Chartreuse de Parme évidemment. Octave de Malivert, le héros de Armance auquel j'ai consacré un personnage en personne, est beau aussi. Il y a chez lui cette espèce de passion pour les personnages principaux beaux.
Alors je crois que ça relève d'une passion peut-être un peu plus générale, c'est la passion pour le singulier ou la spécialité, comme il dit à propos de Julien Sorel, c'est-à-dire ce qui se démarque, ce qui se détache du tout venant, ce qui se détache du plat. Ça, c'est un terme très stendhalien. Et ce qui se détache du plat, ça peut être soit la laideur. Henri Gagnon, donc le grand-père de Stendhal, ou Romain Gagnon lui avait dit à Stendhal lui-même, il le rapporte dans La vie d'Henri Brûlard, tu es laid, mais on ne t'en tiendra pas rigueur, tu as une physionomie. La physionomie, ce qui sort du lot, ça peut être la laideur, ça peut être la beauté, ça peut être le crime, ça peut être la sainteté ou la vertu.
Alors, qu'arrive-t-il à Julien Sorel dans le cours du Rouge et le Noir?
Alors, il lui arrive bien des choses. Si on parlait simplement en romancier naturaliste, on dirait que Julien Sorel suit une trajectoire à la Rastignac et au dernier moment se convertit à ce qu'un autre Julien, Gracq, appelait une espèce de quiétisme. Voilà ce qu'on pourrait dire. On pourrait également l'envisager d'une autre façon, on pourrait l'envisager du point de vue du lecteur amateur de romans d'amour. Et on pourrait dire que Julien passe d'une femme à une autre pour revenir à la première, non sans avoir tiré sur la première. Et résumé comme ça, ça nous montre peut-être aussi tout ce que le Rouge et le Noir peuvent avoir d'audacieux du point de vue romanesque, ce qui est évidemment une gageure à tenir.
Alors dites-moi, de manière positive, je sais bien qu'il y a beaucoup trop de choses pour tout dire en deux minutes, mais si par le plus grand des hasards, quelqu'un qui nous écoutait ne connaissait pas le Rouge et le Noir, qu'est-ce qui arrive à ce petit jeune homme qui est un fils de menuisier?
Alors c'est un fils de menuisier, un fils de scieur plus précisément, qui ne va avoir qu'une volonté et qu'une perspective, c'est sortir de Verrières, la petite ville donc dont il est issu, et s'élever dans le monde. Ça va être tout d'abord devenir précepteur chez Madame de Rênal, ça va être ensuite, après un détour par le séminaire, devenir le secrétaire d'un très très grand noble, d'un très grand ultra, le marquis de La Mole, à Paris. Ça va être s'élever, et bien sûr, on ne s'élève dans un roman que pour chuter de plus haut.
Et alors, il chute parce que il a une aventure avec Mathilde de La Mole, il y a une lettre qui arrive à Paris où il est maltraité, il retourne à Besançon et il tire sur Madame de Rênal, sa première maîtresse dans tous les sens du terme, puisqu'elle a été sa maîtresse et sa maîtresse, dans l'église où elle se trouve. Il pense l'avoir tuée, elle n'est pas morte et lui-même est condamné à mort. Alors, une très grande caractéristique de Julien, c'est qu'il lit beaucoup. Et c'est d'ailleurs, ça aussi, c'est une constante chez les personnages de Stendhal, ce sont des grands lecteurs. Il lit et ça lui est reproché. Il lit, son père lui donne des coups parce qu'il lit, il le traite de chien de lisard. Et que lit-il en particulier?
Alors effectivement, Julien lit beaucoup, comme Mathilde Lamolle d'ailleurs. Ce que Julien lit en particulier, ça va être le mémorial de Sainte-Hélène. C'est donc les livres que lui ont légués, celui dont on pourrait dire qu'il est sa première figure tutélaire, un ancien chirurgien-major des armées bonapartistes. Et ce qu'il va lire, c'est donc la geste, non pas la geste du Napoléon empereur, mais la geste du général Bonaparte. Et c'est le rêve de Julien, qui est le rêve des enfants du siècle dont parlait Musset, c'est-à-dire, mais des enfants du siècle trop tard venus, trop tard nés, ça serait de reproduire l'épopée napoléonienne, l'épopée bonapartiste. Il va lire Rousseau aussi, la Bible également, qu'il va connaître par cœur, en latin.
Ce qui va beaucoup l'aider, car il a beaucoup de mémoire.
Oui, il a une grande mémoire, c'est-à-dire assez amusant, parce que Stendhal se plaignait d'avoir peu de mémoire, lui. Et donc, tout ça va faire qu'en fait, Julien se meut, pourrait-on dire, entre deux mondes. D'une part, le monde bien réel, qui a donné son sous-titre au livre Chronique du 19e siècle. Ces mondes dont on a rapidement parlé, les salons du marquis de la Mole ou le monde de Verrières. Et d'autre part, ce monde imaginaire, ce monde de l'idéal, ce monde des livres, et en particulier le monde, donc, des mémoires de Bonaparte.
Il a, à Verrières, une possibilité de tout arrêter, c'est quand son ami Fouquet lui propose de s'associer avec lui dans son affaire de marchand de bois. Cette offre donna de l'humeur à Julien, elle dérangeait sa folie. Il y a une folie chez Julien, une espèce de folie de moustique qui tourne autour de son idée de sortir sa condition, et je lis une autre phrase de Stendhal, « Chez cet être singulier, c'était tous les jours tempête ».
Effectivement, Julien est un être de tempête, et il y a une forme de folie, mais une folie qui finalement tient peut-être à ce que Stendhal appelle le caractère de Julien. Qu'est-ce que c'est? C'est un personnage extrêmement sensible au point de s'évanouir devant le directeur du séminaire de Besançon, l'abbé Pirard.
Qui est, pardon, un trait commun avec Stendhal, qui avait aussi des évanouissements pareils. Il tombait aussi d'émotion quand il voyait un trop beau tableau.
Ouais, le syndrome de Stendhal. Et alors justement, Julien en partage cette sensibilité excessive, ce que Stendhal appelle cette sensibilité espagnole, l'espagnolisme, et c'est cela sa folie. Et pourquoi apparaît-elle comme une folie, cette sensibilité excessive? C'est parce qu'elle vient justement à la traverse de toute la stratégie, de toute la tactique minutieuse qu'échafaude ou que croit échafauder Julien sans cesse pour s'élever dans le monde.
Alors justement, pour cela, il décide de s'élever, mais le pauvre est né deux fois mal, c'est-à-dire qu'il est né dans la mauvaise famille, il est né dans une famille de brutes, son père et ses deux frères sont des brutes, et il est né dans le mauvais moment, parce que c'est un garçon intelligent, mais c'est la Restauration, mais c'est une époque où il n'y a pas d'enseignement public obligatoire, donc il se cultive comme il peut, et pour arriver, quand on vient d'un milieu inférieur, si je puis dire, on ne peut arriver que par la ruse. Et c'est ça qu'il essaie de faire, avec cette chose qui est relativement héroïque, je pense, ça n'est jamais dit dans le livre, mais je pense qu'on peut lui en faire crédit, c'est que, beau garçon comme il est, il pourrait gigoloter. Or, il couche avec deux femmes, mais ça n'est pas pour arriver. À chaque fois, c'est bien spécifique, c'est presque, il couche avec Madame de Rênal par une espèce de coup d'audace, comme ça, pour se dire, et Napoléon, qu'aurait-il fait? Et la petite de la Mole, c'est plutôt elle qui se jette à son cou.
Alors là, Stendhal donne justement une explication à cet arrivisme non sexuel, si j'ose dire, c'est que notre héros, comme il le dit assez souvent, ne connaît rien aux femmes. Rendez-vous compte, il n'a même pas lu de roman, quoi. C'est-à-dire qu'il est incapable de naviguer dans les complexités de l'érotisme et des codes érotiques. Et Stendhal donne également une autre explication dans un article ou un projet d'article qu'il a rédigé pour Le Rouge et le Noir. C'est que ce début de 19e siècle, cette restauration, ce n'est plus la France d'avant la Révolution, ce n'est plus la France de la courtisanerie, de la galanterie, la France gaie, légère et pétillante. C'est une France où tout le monde se surveille, c'est une France où on s'ennuie mortellement. C'est finalement une France où la séduction n'est plus possible parce qu'on ne peut pas sortir du lot.
Alors en même temps, il est envieux. Et il y a une phrase très frappante où Stendhal dit il oubliait son triste rôle de plébéien révolté et plus tard, c'était l'homme malheureux en guerre avec la société. Et le mot malheureux n'est pas le moins important des deux, car sa souffrance le rend maladroit.
Oui, alors là, il y a quelque chose de très romantique chez Stendhal, chez Julien. Enfin, c'est il est méchant parce qu'il est malheureux. C'est ce qu'on trouve chez les grandes figures romantiques, c'est les satans romantiques. Et effectivement, Julien est malheureux, mais on pourrait dire, c'est la grande intelligence de Stendhal, au lieu de se rabattre sur ce qui pourrait être finalement une explication unique et psychologique, il montre comment Julien construit aussi la représentation de son malheur. On pourrait presque dire par moments qu'il s'invente son malheur.
Alors, il y a dans un précipité admirable, après ses aventures à Verrières et à Paris, et entre-temps au séminaire, le retour à Verrières, où, nous l'avons dit, exaspéré par une lettre de Madame de Rênal, il tire sur elle à Verrières, et il faut dire que ce qui reste du Rouge et le Noir, et que nous n'avons pas dit, c'est que Julien Sorel, qui a si peu la psychologie, si peu même, pourrait-on dire, l'aspect physique d'un père, va être père. Mathilde Lamolle est enceinte. Et donc, on peut penser que dans la grande géographie de la fiction française, il y a quelque part un enfant de Julien Sorel.
Alors, effectivement, qu'est-il devenu? Et on pourrait essayer de suivre. Alors, moi, j'ai une petite hypothèse, c'est que il s'est réincarné au XXe siècle et il a pris pour prénom Lafcadio. Mmh. Mais bon, c'est une hypothèse parmi d'autres, on en trouverait d'autres. Peut-être a-t-il émigré aux États-Unis et peut-être est-il devenu Holden Caulfield aussi. Enfin,
aurait pu aussi devenir le gardien du musée du jardin de Bérénice de Barès, qui séduit une très jeune fille.
Alors, c'est possible aussi, mais je pense effectivement que la descendance de Julien Sorel, ce seront un peu tous ces jeunes hommes qui vivent dans une espèce d'entre-deux, d'intermédiaire entre, d'une part, un monde réel, d'autre part, un monde imaginé.
Je citais d'ailleurs Barès parce qu'il y a une chose très curieuse qui s'est produite à la fin du XIXe siècle, c'est d'ailleurs le seul coup d'État réussi par la droite depuis Napoléon III, c'est que la droite a capté Stendhal, qui est un des rares auteurs authentiquement de gauche de la littérature française. Il a toujours été pour la Révolution, il a toujours été pour la décapitation de Louis XVI, etc. Et il a été, de manière assez intéressante d'ailleurs, récupéré par la droite.
Oui, alors ça, c'est assez juste. Alors, je pense que deux choses peuvent s'y prêter pour faire une analyse politologique très rapide. La première, c'est que dans Le Rouge et le Noir, par les yeux de Julien, Stendhal dit, certes, du mal des ultras, certes, du mal de cette chape de plomb qui règne sur les mœurs et sur les sentiments et sur l'intelligence, mais il s'en prend aussi très, très vivement aux libéraux. La visite du roi, par exemple, à Verrières, elle se conclut sur le fait que les libéraux ont illuminé la ville aussi bien que les ultras. Enfin,
pardon, mais quand même, les libéraux sont pas si mal servis. Et puis Stendhal lui-même, vous citiez tout à l'heure la vie d'Henri Brûlard. Dans Le Brûlard, il dit « moi qui suis un libéral ».
Oui, alors...
Et libéral à l'époque ne voulait pas dire, évidemment, bon, ce que ça veut dire aujourd'hui.
Disons libéral de gauche, voilà, pour le dire voilà. Très très vite. Effectivement, mais il voit aussi les limites des libéraux. Donc, certes, il est de gauche, mais c'est une gauche critique, si j'ose dire.
Nous allons maintenant entendre un passage du Rouge et le Noir concernant Julien Sorel, extrait de Connaissance de l'Homme, diffusé le 16 janvier 1950 sur la chaîne nationale. L'interprète est René Clément.
À peine entré dans la maison, Julien se sentit l'épaule arrêtée par la puissante main de son père. Il tremblait, s'attendant à quelques coups. « Réponds-moi sans mentir !» lui cria aux oreilles la voix dure du vieux paysan, tandis que sa main le retournait comme la main d'un enfant retourne un soldat de plomb. Les grands yeux noirs et remplis de larmes de Julien se trouvèrent en face des petits yeux gris du vieux charpentier qui avait l'air de vouloir lire jusqu'au fond de son âme. « Réponds-moi sans mentir si tu peux, chien de Lisard. D'où connais-tu Madame de Rênal? Quand lui as-tu parlé ?»«
Je ne lui ai jamais parlé, » répondit Julien. « Je n'ai jamais vu cette dame qu'à l'église. »
« Mais tu l'auras regardé, vilain effronté !»«
Jamais. Vous savez qu'à l'église, je ne vois que Dieu, » ajouta Julien avec un petit air hypocrite, tout propre, selon lui, à éloigner le retour des taloches.
Damien Aubel, à propos de Julien Sorel, du Rouge et le Noir évidemment, Stendhal dit de lui qu'il est singulier, et cette singularité irrite tout le monde, et lui-même se dit, en cours de roman, « Eh bien, j'ai assez vécu pour voir que différence engendre haine. »
Oui, alors effectivement, Julien, c'est la singularité, c'est la spécialité, comme dit aussi Stendhal. C'est celui qui va sortir du lot. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Stendhal, ce n'est pas seulement une qualité, un tempérament, ça se traduit aussi très très physiquement. On a parlé de sa beauté tout à l'heure, ça se traduit par le goût aussi de Julien pour les élévations, pour les hauteurs. Il y a une façon chez Stendhal de traduire physiquement, physiologiquement, enfin, et même spatialement, cette singularité de Julien. Enfin.
Alors, il y a une chose aussi, c'est qu'il est hypocrite, mais d'une certaine façon de la bonne hypocrisie, c'est-à-dire l'hypocrisie des faibles. Ce qui est injustifiable, c'est l'hypocrisie des forts, et Dieu sait si elle existe, mais lui, il est faible. Donc, il utilise cette hypocrisie. Et à un certain moment, dans la deuxième partie, Stendhal dit « Le génie de Tartuffe vint au secours de Julien ». Il ne faut pas oublier que Stendhal adorait le Tartuffe et qu'il avait rêvé d'écrire une comédie à partir de Tartuffe, et en tout cas sur le sujet de l'hypocrisie.
Oui, alors effectivement, bon, sur le sujet de l'hypocrisie, il y aurait énormément à dire sur Julien Sorel, mais vous avez bien fait de parler de Tartuffe et de Molière et du théâtre, car je crois beaucoup que l'hypocrisie, on a beaucoup parlé, on a beaucoup glosé sur l'hypocrisie de Julien Sorel, on a pu dire qu'elle était notamment une réaction de défense face aux mécanismes sociaux, mais je crois beaucoup plus profondément qu'elle est d'abord la joie d'endosser un rôle, de mettre un masque. On sait combien Stendhal aimait les masques, et que permet ce masque ? Eh bien, il permet non seulement, outre la joie du travestissement, il permet aussi d'entrer dans les milieux, d'observer, d'être le témoin. Et effectivement, Julien, dans les salons du Marquis de la Mole, c'est d'abord celui qui écoute, qui observe, qui étudie les caractères.
Bah, Julien est le plus grand des espions, d'une certaine façon, et d'ailleurs, ça donne lieu à une des scènes, pour moi, les plus prodigieuses du roman, qui est une scène presque gratuite, et c'est pour ça qu'elle est belle, c'est la scène du complot, où il assiste, sans bien comprendre tout, à un complot ultra.
Alors, complètement, cette scène, c'est la fameuse scène de la note secrète, alors qui vient un peu comme une espèce de hors-d'œuvre complet, mais cette scène est d'autant plus extraordinaire qu'on est dans une scène de comédie. Le défilé des conspirateurs sous les yeux de Julien qui sert de greffier au Marquis de la Mole, c'est une scène du plus haut comique. L'un porte quatre gilets, l'autre s'endort au bout de la discussion, un autre est d'une veulerie rare. Bref, on est vraiment dans une scène de comédie, mais on est aussi dans une scène très politique. Encore une fois, n'oublions pas le sous-titre du Rouge et du Noir, c'est Chronique du 19e siècle. Et qu'est-ce que ça nous montre là ? Ça nous montre des fossiles en train d'essayer désespérément de trouver un moyen de réagir à ce qui interviendra et ce qui retardera même l'impression du Rouge et du Noir, c'est-à-dire les Journées de Juillet, qui est les Trois Glorieuses.
Le Rouge et le Noir est en très grande partie un roman de gauche aussi, parce qu'il est un des seuls romans de son époque à montrer, et il le fait parce que tous les autres auteurs étaient à peu près de droite comme Balzac et ne voulaient pas le faire. Il est le seul à nous montrer dans la fiction française les missions et les congrégations que le régime de la Restauration avait envoyées dans tout le pays, ce qu'on a un peu oublié maintenant, pour faire la propagande de la monarchie restaurée et de l'Église. Ça apparaît beaucoup.
Alors d'une part, je dirais qu'il y a effectivement ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire cette justesse réaliste, pour le dire vite, mais d'autre part, il y a chez Stendhal quelque chose qu'on retrouve aussi chez Balzac, par-delà les frontières idéologiques, c'est le goût, ou plus exactement la conscience de la prodigieuse puissance romanesque des organisations plus ou moins secrètes, en l'occurrence, plus que moins.
Alors, il y a une chose très, peut-être accessoire, mais pas tout à fait dans Le Rouge et le Noir, qui fait que ce roman pourrait s'appeler Le Mystère de Paris, et ça vient du fait que Stendhal était un provincial, comme celui qui parle d'ailleurs. C'est ce mystère, c'est le langage. Il y a plusieurs moments très frappants où quand Julien arrive à Paris, Il ne comprend pas. Il parle le français lui-même, mais c'est un autre français que celui qu'on parle à Paris. C'était comme une langue étrangère qu'il eût comprise et admirée, mais qu'il n'eût pu parler.
Alors, ça tient, je pense, à une chose, c'est à donc l'oreille de Stendhal pour tout ce qui est expression, voire l'emploi, par exemple, des italiques dans Le Rouge et le Noir. Mais ça tient aussi au fait qu'arrivé à Paris, on est dans la grande opposition Paris-Province, et dans l'anthropologie française de Stendhal est essentiel, c'est que à Paris, les choses sont encore plus étouffées qu'en province. Résultat, le langage est encore plus châtré, si c'est possible, est encore plus insipide. Il faut le comprendre. Il faut donc arriver à saisir les infimes, les myriades d'infimes nuances qu'il peut y avoir.
Une seule fois, une seule, et c'est d'ailleurs assez curieux dans ce roman, Stendhal emploie un adjectif réellement dépréciatif à l'endroit de Julien Sorel, car je ne pense pas qu'il considère sa haine et son envie comme des si grands défauts. Cet adjectif, c'est médiocre. Comme tous les êtres médiocres que le hasard met en présence des manœuvres d'un grand général, Julien, etc.
Mais je pense qu'il faut aussi voir que la multiplicité des facettes de Julien dont on a amplement parlé, cette multiplicité appelle de la part du lecteur, tout comme de cette espèce d'étrange mixte entre narrateur et lecteur qu'est Stendhal dans son livre, appelle des jugements variés. Vous avez cité le terme de médiocre, on pourrait également parler de cette scène où Julien est à un dîner chez Valneau, et c'est donc juste contigu à la prison, et dans cette prison, un prisonnier chante une chanson un peu obscène, et le gros Valneau va faire taire, évidemment, Manu Militari, le malheureux prisonnier. Julien s'indigne, on conçoit et on comprend que Stendhal partage son indignation. Paragraphe suivant, il écrit « Mais Julien n'était-il qu'un révolutionnaire aux gants jaunes ?» Donc je crois que aussi ce qui fait tout le prix, la complexité du personnage, c'est que à son égard, Stendhal modifie lui aussi très souvent ses perspectives, et pour aller donc jusqu'au qualificatif de médiocre que vous citiez tout à l'heure.
Je me demande aussi si Stendhal commençait, écrivait vite, et même s'il a écrit le Rouge et le Noir de manière moins rapide que la Chartreuse de Parme, je me demande si c'est pas simplement un moment où il a mis le nez sur sa documentation, les choses sur lesquelles il s'est fondé, et qu'il a vu le fait divers à partir duquel il est en partie parti, si je puis dire, et qui s'est dit quel médiocre, et puis ça rejaillit sur son texte en train d'écrire. Je n'en sais rien, mais ça pourrait être ça.
Non, c'est possible, ou peut-être, je ferai une autre hypothèse, enfin c'est pas moi qui l'a fait, mais quelqu'un d'infiniment plus honorable que moi, c'est Julien Gracq, qui explique à un moment que toutes ces sautes dans le style, ces sautes aussi dans les points de vue qu'on peut prendre sur un personnage, tiennent peut-être chez Stendhal à la préscience d'une discontinuité du moi, à l'annonce de cette discontinuité psychologique qui sera effectivement le fond de commerce, pour parler un peu trivialement, du grand roman du XXe siècle, des Proust, etc. Enfin...
Nous avons beaucoup parlé de politique, mais c'est à cause de Stendhal ou grâce à lui. Je voudrais pour finir dire qu'on commet souvent un faux sens quand on cite le narrateur du Rouge et le Noir comme rejetant la politique dans le roman. Tout au contraire, quand il écrit « La politique au milieu des intérêts d'imagination, c'est un coup de pistolet au milieu d'un concert », il veut dire, en le déplorant, que la politique heurte l'hypocrisie des lecteurs qui s'éloignent et qui l'éloignent de l'intérêt essentiel d'un livre, ses personnages.
Oui, d'ailleurs, dans le passage que vous citez, c'est en fait un faux petit dialogue improvisé entre le narrateur et son éditeur. Et l'éditeur lui dit « Mais monsieur, si vous ne voulez pas faire figurer la politique, alors votre livre n'est plus une chronique de 1830. » Donc, il y a chez Stendhal, et ce qui est peut-être la seule idole que Stendhal, pourtant si peu religieux, si peu clérical et adoré, c'est la vérité. Et au nom de la vérité, doivent figurer les discussions politiques.
Damien Aubel, que vous a appris le personnage de Julien Sorel ?
Ce que je dirais, c'est peut-être son actualité. En 1954, Louis Aragon disait que Stendhal est un écrivain d'avenir, et effectivement, le personnage de Julien Sorel est encore valable aujourd'hui, dans un monde où les réseaux sociaux sont des jeux de masques permanents, sont des jeux de construction d'identité, de personnalité permanents. Peut-être que le personnage de Julien Sorel peut être lu à titre d'avertissement. Méfiez-vous, à force d'endosser des rôles et des rôles, peut-être allez-vous finir par tirer sur votre maîtresse et peut-être allez-vous finir sur l'échafaud.
C'était Personnage en personne, le 120e. La semaine prochaine, j'entreprendrai un diptyque des stéréotypes féminins dans la fiction, avec pour premier volet les personnages de garce dans le roman, la nouvelle, le théâtre et le cinéma.
Comme si j'étais assis là-haut paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée d'émission Meryl Moneghetti, prise de son Bernard Lagnel.
De ma vie.